Plus particulièrement le métier d'éco-conseillère accompagnement à la redirection écologique de la culture dans un contexte particulier qui est celui d'adaptation aux aléas climatiques. Alors, il y a beaucoup d'éléments, mais ne vous inquiétez pas, je vais les reprendre un par un dès qu'on pourra commencer. Peut-être pour me présenter en attendant que ça fonctionne. Je suis éco-conseillère, donc cofondatrice du collectif et de l'association Les Augures. On va pouvoir aller directement sur l'autre slide. Je vais apporter un point de vue sur notre métier de l'accompagnement à la transition écologique. Vous allez voir pourquoi j'ai mis ce mot « transition » entre parenthèses. Et puis surtout, justement, pour parler un peu de « au-delà de la transition », qui est aussi le sujet à la fois de recherche et d'exploration vers lequel on doit aller, à la fois d'intégrer de nouveaux enjeux qui sont absolument urgents et nécessaires, tels que les enjeux d'adaptation aux effets du changement climatique, et aussi de pouvoir viser vers un nouveau cadre d'accompagnement, de réflexion, qui est celui de la redirection écologique. Vous passiez. Donc, les métiers de l'accompagnement. Donc, pour se présenter, nous, les Augures, on est 4 cofondatrices, on existe depuis un peu plus de 6 ans, et on accompagne le secteur vraiment très spécifiquement de la culture sur sa transition écologique et sociale et ses capacités d'adaptation. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc on a deux modes d'action qui sont complémentaires, qui n'ont pas du tout les mêmes régimes. Et on a décidé dès le début qu'on n'allait pas choisir entre être consultante d'un côté et monter une association et faire vivre une association de l'autre. Dans notre métier de consultante, à travers le collectif, on fait du conseil et l'accompagnement des acteurs culturels dans leur transition. Et on va, je le décrirai juste un peu plus tard, travailler des stratégies environnementales, former, créer des outils, etc. Et puis, parallèlement, parce que ça ne nous semblait pas suffisant pour répondre en fait aux besoins du secteur sur ce sujet, dès le début, on a voulu travailler l'expérimentation de manière de faire à travers la fédération de communautés. Donc communautés culturelles, artistiques et environnementales pour pouvoir innover, mettre en place des applications nouvelles face aux défis environnementaux. Et ça, on le fait à travers trois projets, dont un est porté par l'association. Le projet Augure Lab Culture Circulaire, qui s'appelait avant Augure Lab Scénographie, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est porté par l'association, qui porte ce projet aussi qui s'appelle l'Écothèque, et qui est un outil que je vous encourage vraiment à aller voir. Donc là, on a travaillé sous la forme de la recherche-action, à la recherche de solutions extrêmement concrètes. Parallèlement, il y a aussi un lab autour du numérique responsable, et qui est porté par ma collègue Camille avec le cabinet Contrôles, et aussi le programme VIF, dont vous entendrez aussi parler, je crois, tout à l'heure, avec Koal et Être et Avoir, qui lui s'adresse plutôt les enjeux de la biodiversité. Donc voilà, il y a comme ça cette nécessité pour nous de faire des allers-retours entre la dimension de conseil, d'accompagnement des structures et la dimension de projet plus collectif pour fédérer les acteurs. Donc quand on parle des augures, il y a effectivement nous quatre, mais il y a aussi l'équipe de l'association, Caroline qui est là, et puis bien sûr aussi une large communauté d'acteurs et d'actrices. Précisément, qu'est-ce que c'est que faire le métier d'éco-conseillère, hein, c'est quoi les méthodes, les missions sur lesquelles on travaille? Alors, je ne vous déroule pas les différentes missions qu'on a pu faire, mais un peu pour montrer les complémentarités aussi. Alors, on va être beaucoup sur l'accompagnement de stratégies, de démarches environnementales, qui sont deux ordres, qui peuvent être globales, c'est-à-dire on va y traiter un peu de tous les sujets, mais qui peuvent être aussi également ciblés sur l'économie circulaire, sur le numérique, sur l'adaptation au changement climatique ou encore sur la biodiversité. Donc ça va passer par plein de, d'aspects. Je ne vais pas tous vous les décrire, mais en tout cas, on va devoir diagnostiquer, construire des stratégies, construire des plans d'action, travailler sur la gouvernance, la structuration d'un pilotage, travailler aussi sur l'ingénierie, la mise en œuvre elle-même, et encore sur des aspects hein, comme l'analyse de vulnérabilité. Et puis ben, tout ça, ça s'accompagne bien sûr de briques liées à la transmission de connaissances. Hein. On ne fait jamais un accompagnement sans former les équipes, parce que ce sont les équipes elles-mêmes hein, qui vont mettre en œuvre les projets. Donc bien sûr, formation, sensibilisation de divers ordres, hein, d'une première brique de sensibilisation à des formations de métiers beaucoup plus poussées, précises, et qui sont toujours pour les acteurs de la culture, hein, donc vraiment spécifiquement tournées vers les acteurs de la culture. Ou encore des temps collaboratifs qui vont permettre à des équipes, dans un temps assez court, comme ça, de pouvoir se mettre en mouvement. Et tout ça s'accompagne aussi d'outils. On va développer sur mesure des guides, des bibliothèques d'action, des outils de pilotage, d'évaluation, des closiers, des outils d'adaptation, etc. Qui vont permettre de rendre aussi les accompagnements très opérationnels. Je pense qu'à chacune des missions qu'on fait, il y a toujours un nouvel outil comme ça qu'on va développer. Et puis, ben, tout ça se fait toujours de manière très collaborative. Hein. Donc, c'est vraiment la condition de départ d'un accompagnement. C'est la dimension collaborative, le fait que toute une équipe doive y participer et que ça repose sur, bien sûr, les outils de l'intelligence collective. Alors, les métiers de l'accompagnement. Alors là, on peut parler autant des éco-conseillers hier que des référents, référentes. Transition écologique dans une structure, en termes de compétences, de quoi on a besoin, on va voir qu'on va rapidement avoir besoin de compétences qui sont très croisées. Déjà, on a la compétence du secteur qu'on va transformer. Moi, avant de faire de l'accompagnement en transition écologique pour le secteur des arts visuels, j'ai travaillé 15 ans dans le secteur des arts visuels. Lucie le dit souvent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, d'une certaine manière. Donc, il y a vraiment cet enjeu de partir des métiers dans lesquels on intervient. C'est vraiment le point de départ. Ensuite, bien sûr, il y a des compétences métiers plus spécifiques hein, dans la transition. Alors là, il y a une liste, elle est loin d'être exhaustive. Et ce n'est pas pour faire peur, parce qu'on n'a pas besoin de maîtriser tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques compétences à connaître. Hein. On n'est pas obligé de savoir faire des bilans carbone, mais savoir comment ça fonctionne. Savoir mesurer des impacts, analyser de manière quantitative, qualitative, organisationnelle, les enjeux. De pouvoir aussi connaître hein, les leviers de l'économie circulaire, les enjeux d'efficacité énergétique numérique responsable, l'adaptation, etc. etc. Moi, je pense que c'est peut-être là où... ça a été là la compétence la plus déterminante pour moi. Ces expertises complémentaires, qu'on appelle parfois les soft skills, mais tout ce qui va être de l'ordre de la conduite du changement, la facilitation, savoir animer un groupe, les outils d'intelligence collective, etc., en fait, c'est vraiment déterminant aussi pour pouvoir faire ces métiers de l'accompagnement. Enfin, je voudrais vous donner aussi un point de vue, si on peut, voilà, un peu mon point de vue sur les constats qu'on peut faire hein, sur les métiers de l'accompagnement, des co-conseillers, co-conseillères, en fait, c'est une position un peu inconfortable, des fois, d'être un aiguillon, de devoir servir de boussole pour les acteurs, pour le secteur, dans un monde qui est totalement incertain. Par rapport à pas mal d'aspects. Alors déjà, incertain du point de vue financier, hein, on constate tous, bien sûr, la rétractation des financements qui sont dédié à la transition, avec bien sûr ce double backlash, avec d'une part la réduction des budgets culturels, hein, globalement, hein, nous, l'essentiel de nos clients et membres de communautés sont des personnes dans le secteur culturel public, donc des acteurs subventionnés. Donc bien sûr, la réduction des moyens globaux des organisations va avoir un impact aussi sur la capacité de mener des projets de transition, d'être accompagnés sur ce sujet-là. Et puis, ben, parallèlement, autre phénomène qui est celui d'une dépriorisation très très forte hein, des sujets écologiques, avec un recul global aussi des mobilisations pour le climat, qui vont affecter, et Lucie l'a dit, l'intérêt aussi que les acteurs vont porter à ce sujet. Ensuite, la réalité des métiers des consultants, consultantes en transition écologique, RSE, etc. est complètement en train de changer. Avec aussi des réalités qui sont très très contrastées. On va avoir des gros cabinets, vraiment très gros cabinets, hein. Certains sont même cotés au CAC 40, des gros cabinets qui rachètent d'autres cabinets. Et là, on a vu ces derniers mois, dernières années, 4 ou 5 cabinets de taille moyenne rachetés par des gros cabinets. Parallèlement, les cabinets de RSE vont très mal en ce moment. Et puis, parallèlement, on a aussi une constellation de consultants, consultantes freelance qui, pour beaucoup, sont aussi en difficulté pour continuer leur activité. Alors, un des autres enjeux, c'est que cette évolution des sujets, on est dans un secteur très instable parce que les sujets sur lesquels on travaille, les logiciels aussi d'accompagnement, doivent être mis en question. Mis à jour de manière vraiment constante. Hein. Déjà, il y a des aléas réglementaires, c'est vraiment très compliqué de suivre. Et puis, on voit une mutation des enjeux. On s'intéressait beaucoup à la RSE à un moment donné. Après, on a eu l'enjeu du bilan carbone. Et puis là, il y a les questions sur la biodiversité, et puis l'adaptation, etc., etc. Donc, ça nécessite, en fait, pour les personnes qui accompagnent ces sujets-là, de faire évoluer de manière vraiment constante leur sujet, de faire de la recherche, de la veille, etc. Et puis, autre facteur d'instabilité, dans le travail qu'on fait d'accompagnement, on va avoir des préconisations, des positions qui vont souvent être à rebours, voire en contradiction avec les objectifs ou les manières de faire au sein d'une institution, et notamment vis-à-vis des directions, qui sont des fois les personnes qui nous mandatent. On va aussi venir contredire certains aspects de leur décision, parce qu'on va devoir réfléchir à des questions de décroissance, de ralentissement, de renoncement, ou de partage de décisions, et où on doit être en mesure de pouvoir tenir certaines positions. Alors, on peut aussi se poser la question, est-ce que notre métier va disparaître? Est-ce qu'on profite des IA génératives? Alors nous, on ne pense pas. Peut-être qu'on est un peu naïf, mais en tout cas, on pense que ce qu'on fait, c'est avant tout travailler sur les enjeux organisationnels. Hein. On peut demander à une IA de faire une liste de préconisations pour notre secteur, ce sera sans doute très bien. Mais c'est pas pour ça que vous saurez comment le faire. Et que aussi, notre métier, c'est avant tout un métier relationnel. Et puis surtout, c'est un métier qui doit aussi reposer sur la recherche et la construction, le partage de connaissances. Et c'est là où on a besoin des chercheurs et on a besoin des sciences humaines. Pour pouvoir continuer, pour pouvoir être stimulé aussi et pour pouvoir pouvoir travailler sur ces mises à jour constantes des sujets de la transition. Donc ça m'amène aussi naturellement au sujet de l'adaptation aux effets du changement climatique. Je veux bien que vous passiez à la slide suivante. Quand on a commencé à s'intéresser à ce sujet-là, il ne trouvait rien sur comment les musées s'adaptaient au secteur. Donc avec ma collègue Camille et avec le cabinet EcoAct, qui aujourd'hui a été racheté par Schneider Electric, on s'est rassemblé pour produire une étude sur des éléments qui n'existaient pas, donc une étude à la fois quantitative sur 1200 musées de France, on a analysé les impacts futurs, et qualitative en interrogeant des professionnels du secteur, pour voir comment ils intégraient ces enjeux d'aléas climatiques dans les musées. Et on a produit cette étude que vous pourrez retrouver. Et donc pour parler de l'adaptation rapidement, c'est tout l'enjeu de l'adaptation, c'est ce qu'on appelle gérer l'inévitable, c'est-à-dire réduire gérer en fait les conséquences du changement climatique. Mais la première mesure d'adaptation, c'est l'atténuation. Donc c'est de pouvoir réduire les impacts sur le changement climatique. Donc ces deux enjeux sont bien sûr à mener de manière parallèle. Alors à quoi on doit s'adapter? Je ne vais pas faire un exposé sur l'adaptation, mais rapidement vous dire que le changement climatique, vous le savez, va modifier la fréquence, mais aussi l'intensité des aléas climatiques. Il y a des aléas qui sont graduels, d'autres qui sont extrêmes. On a pu avoir des illustrations visuelles très très fortes de ce que ça signifie, le changement climatique. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça va changer à peu près tous les aspects de nos vies. Et que, à l'échelle de notre territoire français, le changement climatique va atteindre environ 4 degrés à la fin du siècle. Alors, qu'est-ce qu'un risque climat ? C'est rapidement, mais c'est simplement pour vous dire que c'est pas quelque chose qu'on évalue de manière simple. Au contraire, c'est assez complexe. Parce que comprendre ce qu'est un risque climat, c'est mettre en parallèle deux composantes. L'exposition à un phénomène, l'exposition à un facteur externe, qui est l'aléa climatique, auquel on va combiner la vulnérabilité, c'est-à-dire à quel point on est sensible à cet aléa climatique, et aussi à quel point est-ce qu'on est en mesure de s'adapter à cet aléa. Donc je vais vous essayer d'illustrer les choses. Déjà, nous, on a étudié dans l'étude qu'on a faite les risques climatiques auxquels sont soumises les organisations culturelles, donc plus particulièrement les musées. Donc on a des risques climatiques qui sont directs, que vous connaissez déjà. C'est principalement, on va dire, sur l'ensemble du secteur de la création, ça va être les chaleurs extrêmes et les précipitations extrêmes, crues, inondations, mais on va aussi avoir la hausse du niveau de la mer, combinée aux submersions marines, les feux de forêt, les sécheresses, retrait complément des argiles qui vont être les principaux aléas. Et puis, on va avoir aussi des risques qui vont être indirects, c'est-à-dire qui ne vont pas concerner de manière directe le périmètre de notre organisation, mais qui vont être des disruptions dans les chaînes d'activité qui vont empêcher notre fonctionnement. Donc quand on a, par exemple, les crues extrêmes, les infrastructures de transport sont arrêtées, sont bloquées, interrompues, ça va toucher à la fois les œuvres et les personnes. On va avoir aussi les réseaux d'énergie, de télécommunications, d'eau potable qui vont affecter le fonctionnement de nos structures, ou encore nos fournisseurs de services, de biens, qui également ne seront pas en capacité de répondre à nos besoins. Donc on a analysé un certain nombre de conséquences pour les organisations culturelles. Alors, bien sûr, en premier lieu, des conséquences humaines, pour le confort, la sécurité des équipes, des publics, avec aussi des impacts psychosociaux quand ça intervient. Des impacts, bien sûr, sur la conservation des œuvres, qui sont de plusieurs ordres. Sur la conservation aussi des bâtiments et du patrimoine bâti. Des conséquences aussi sur les continuités d'activité des établissements, et aussi des impacts économiques très importants. À la fois, ça génère des frais de fonctionnement plus importants pour s'adapter au changement climatique, mais aussi des coûts d'investissement, mais aussi des pertes de revenus. Alors, comment on analyse tout ça? Il y a un outil qui a été construit qui s'appelle le DIAG adaptation, diagnostic adaptation, qui s'appuie sur une méthode qui s'appelle OCARA. C'est un truc d'ingénieur, c'est vraiment complexe. Mais c'est ce qu'on va, là, dans les prochains mois, mettre en œuvre pour un certain nombre de structures. Il y a plusieurs étapes. D'abord, analyser la résilience actuelle de la structure, à quel point elle est exposée, à quel point elle est vulnérable. Donc, on va regarder quels sont les impacts potentiels du changement climatique sur les processus critiques de cette organisation. Ensuite, on va regarder ça par rapport aux prospectives climatiques. Quelles sont les évolutions futures du climat, donc comment on va être touché plus fortement par les questions des crues, par la question des retraits gonflements des argiles, par la question de la chaleur extrême, etc. Donc là, on va regarder comment les aléas climatiques vont, la plupart du temps, ils vont s'accentuer en 2030, en 2050. Et ensuite, on va analyser le risque physique à partir de ces deux premières études, pour en identifier les sites, les processus, les objets qui vont être le plus menacés par le changement climatique. On ne s'arrête pas là, bien sûr. Et la dernière étape étant la plus importante, c'est comment définir un plan de résilience et aussi des objectifs d'adaptation pour pouvoir planifier des actions à mettre en œuvre pour la résilience de l'organisation. Ça donne aussi des grands axes de transformation. Après, dans l'étude qu'on a faite, on a identifié 5 pour adapter les musées. 5 grands axes de transformation. D'abord, adopter l'organisation interne, comment construire une gouvernance, un management qui soit prospectif, que toutes les décisions qu'on prenne, on les prenne dans un futur, pour le futur, pour dans 10 ans, dans 15 ans, en tenant compte de l'évolution du climat et des risques. De créer une culture du risque, aujourd'hui qui est encore beaucoup trop faible, au sein des équipes, bien sûr, de se former, mais aussi de créer des dynamiques collectif territorial. Et là, je profite pour dire aussi que ce qui est intéressant avec l'adaptation versus l'atténuation, c'est que c'est un sujet extrêmement local. Quand une catastrophe arrive, elle arrive quelque part. Les photos de Samuel nous l'ont bien montré. Et là où l'atténuation, on avait travaillé plutôt des enjeux très globaux, s'adapter, c'est s'adapter quelque part. Et donc il y a tout un enjeu à travailler avec sa ville, avec sa métropole, avec son département, avec sa région, notamment aussi sur tous les systèmes d'alerte, de solidarité, pour prévenir les crises liées à l'intervention d'aléas. Alors bien sûr, adapter les bâtiments, ça c'est la quadrature du cercle, hein. C'est vraiment très complexe, surtout qu'on a des bâtiments patrimoniaux, donc il y a un enjeu de faire évoluer les doctrines patrimoniales pour pouvoir mettre en sécurité les personnes qui y accèdent, qui travaillent. Hein. Je donne un exemple, on a beaucoup d'évanouissement dans les files d'attente devant les musées l'été, c'est pas très populaire de mettre des protections solaires devant l'entrée du Louvre, par exemple. Sur le projet à venir du Louvre, j'ai pas vu de protection solaire devant l'entrée. Donc bon, voilà, il y a un enjeu vraiment de revoir aussi la doctrine vis-à-vis des bâtiments, alors, sobriété énergétique, résilience thermique, et puis ne pas se sentir non plus complètement démuni par rapport à ça, parce qu'il y a des solutions qui sont techniques, qui sont architecturales, qui sont complexes à mettre en œuvre, mais il y a aussi des solutions d'usage qui peuvent être travaillées de manière plus simple, plus concrète. Donc ça revient aussi à adapter les conditions, on va dire, de travail, d'accueil, donc les aspects humains, d'identifier les risques, d'avoir des outils de prévention des risques. On en a encore trop peu au sein des équipes, notamment sur les risques de chaleur, d'aménager l'espace, d'aménager aussi les temps de travail, les temps de programmation, etc. Ça nécessite aussi de penser à l'adaptation de la gestion des œuvres, de gestion des collections, de mettre en œuvre, bien sûr, les principes de l'éco-conservation. On pourrait en parler longtemps, mais il y a plein d'enjeux derrière toute cette notion. De prioriser aussi les collections. On ne va peut-être pas pouvoir tout conserver dans le futur. En tout cas, peut-être pas tout conserver dans des conditions optimales, avec la climatisation, etc. Puis d'adapter aussi les plans de sauvegarde des biens culturels au risque climatique. Et enfin, dernier sujet qui est probablement peut-être le plus passionnant, c'est de transformer aussi les missions, les rôles du musée par rapport à ces questions. Quel rôle culturel vis-à-vis de ces sujets? Quel rôle sociétal aussi un musée peut jouer sur son territoire en termes de refuge, en tant que refuge de plusieurs aspects? Comment être un acteur aussi de la résilience territoriale et aussi comment construire des nouveaux usages, des nouveaux services pour son territoire? Alors l'adaptation, c'est un... Merci beaucoup. Ça soulève plein de sujets pour la culture. Hein. Alors, je pense qu'en conclusion, de dire que le climat, malheureusement, il change beaucoup plus vite que nos imaginaires et que les organisations humaines. Donc il y a vraiment la nécessité aujourd'hui de prendre ce sujet, de comprendre, d'analyser les vulnérabilités, d'accélérer ce qu'on peut appeler le réflexe adaptation. Si vous sortez là en ayant le réflexe adaptation, ce serait super. C'est-à-dire derrière chaque arbitrage que vous devez faire, de le penser en fait par rapport à des nouvelles normes climatiques qui seront dégradées, de toujours prévoir le pire pour protéger le plus précieux, et puis de définir aussi ce que l'on souhaite vraiment préserver et protéger, et le faire de manière démocratique. Ça va être un des enjeux, notamment sur les questions de collection. Et puis aussi d'engager des changements qui soient systémiques au sein des organisations, mais de considérer en fait que la démarche écologique, il faut la voir au-delà de la transition et de faire converger les enjeux atténuation, adaptation et raison d'être pour transformer nos modèles. Et ça m'emmène vers mon dernier point, je regarde l'heure, qui est celui de la redirection écologique. Diego Landivar va vous en parler juste après, donc je vais vraiment passer rapidement, il le fera de manière beaucoup plus brillante. Mais en gros, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur cette première brique de transition écologique. Ah oui, pardon, j'ai... Merci. Et qui a consisté à améliorer, repenser nos manières de faire. Alors on l'a fait par l'optimisation, l'efficacité, l'économie circulaire, la rénovation thermique, etc. Et cette démarche, elle est vraiment, mais absolument nécessaire, il faut le faire, mais malheureusement c'est pas suffisant. Et c'est pas suffisant pour se préparer au monde qui vient. Et c'est pour ça que la redirection écologique est un cadre à la fois conceptuel et opérationnel vraiment... nécessaire, passionnant pour questionner la continuité et la transformation des organisations culturelles sous leurs contraintes écologiques. Parce que c'est un outil qui permet de repenser, de transformer les modèles culturels, d'interroger raison d'être, usage, échelle, mais aussi la fonction stratégique de l'art et de la culture dans le monde qui vient. Donc il y a plein de leviers, hein, sur lequel on réfléchit, je viens de le dire, l'adaptation au risque climatique, aux autres vulnérabilités, aux dépendances qu'on peut avoir vis-à-vis de nombreuses ressources, l'enjeu de désintensifier aussi nos besoins énergétiques et matériels, de conditionner aussi la production aux limites planétaires, hein, d'être aujourd'hui dans une soutenabilité forte et pas seulement dans l'accumulation de projets éco-conçus, de travailler sur l'habitabilité des lieux, l'intensification de leurs usages, ou encore la co-construction de politiques de programmation, des politiques d'acquisition, même aussi sur le rôle des collections avec les acteurs et les actrices d'un territoire. Et pour terminer, je trouvais intéressant de revenir sur ces questions de co-bénéfices, parce que c'est là où nous, on a besoin de vous, on a besoin des chercheurs et chercheuses sur ce sujet, parce qu'on sent que c'est là que beaucoup de choses vont se passer, enfin, on va dire théoriquement, et où que beaucoup de leviers peuvent être trouvés pour la suite. Alors qu'est-ce que c'est que ces co-bénéfices? Ça, c'est un peu ma manière de le présenter, mais en gros, il y a l'action environnementale aujourd'hui qui doit être un couplage des actions d'atténuation qui agissent sur les causes, hein, et des actions d'adaptation qui vont agir sur les conséquences du changement climatique. Déjà, on voit que très souvent, en plein d'endroits, atténuation, adaptation peuvent avoir des actions communes, comme par exemple l'isolation thermique, les énergies renouvelables, la végétation, travailler sur les solutions basées sur la nature, ou encore, par exemple, les mobilités douces, etc. Donc, c'est déjà intéressant de voir le lien qu'on peut faire dans nos plans entre ces deux enjeux, mais où il doit y avoir une synergie et une cohérence. Hein. Certaines fois, on va avoir des actions d'atténuation qui vont avoir des effets négatifs sur l'adaptation. Et donc ces actions environnementales qui vont bien sûr vont avoir des bénéfices environnementaux sur le changement climatique, la biodiversité, la pollution, etc. Mais ce qui est vraiment intéressant et passionnant, et qui à mon sens est aujourd'hui trop peu exploité en partie, enfin et pensé, et en particulier dans le domaine de la culture, c'est quels sont les bénéfices, les autres bénéfices pour en termes économiques, en termes sociaux, j'aurais pu rajouter en termes culturels, sur la santé, hein, on fait du vélo, c'est bon pour la santé, à plein d'aspects, pour la sécurité, je veux dire, on doit aujourd'hui parler de sécurité climatique, on est en danger, sur les liens sociaux, on voit à quel point la transition, ça nous rassemble aussi toutes et tous, sur l'emploi, mais aussi sur l'économie, et aujourd'hui, il y a une nécessité aussi il y a beaucoup d'études économiques, hein, qui montrent en quoi dépenser de l'argent pour se préparer à l'adaptation, ben en fait, c'est de l'argent qu'on n'aura pas à dépenser pour réparer les dégâts futurs, avec des chiffres qui commencent à être posés sur ces enjeux. Donc, il y a des coûts évités, mais il y a aussi des gains derrière qu'il faut qu'on arrive à mieux analyser pour pouvoir mieux les partager. Et tout ça, en fait, ça crée aussi des leviers de décision importants. Hein. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup encore dans les structures à dire « on n'arrive pas encore à convaincre », etc. Et d'aller justement chercher, tirer les bénéfices sur le plan social, culturel, économique, ça peut aussi être un accélérateur pour mettre en œuvre des actions d'atténuation, d'adaptation sur les aspects environnementaux. Voilà. Merci. Merci
beaucoup. On a le temps pour deux questions de la salle. Est-ce que vous avez, comme tout à l'heure, des questions à poser à notre intervenante? Quelque chose qui aurait besoin d'une précision, une réaction à chaud?
Je suis toujours très curieux. Vas-y. Les modèles que vous montrez de transition, etc., peuvent être peut-être intimidants parfois pour les gens avec qui vous parlez. Quels sont les leviers que vous avez utilisés pour faire basculer, qui passent à la décision? Qu'est-ce qui les fait changer d'avis et qu'ils embrassent et qu'ils prennent votre projet, quoi?
Souvent, ils viennent d'abord, c'est eux qui viennent nous chercher, hein, les acteurs culturels, peut-être que je ne l'ai pas précisé, mais on ne les force pas à travailler avec nous. Enfin, il y a quand même des cas où ça arrive, certains projets. Ça ne se passe pas toujours bien d'ailleurs. Mais il y a, en tout cas, nous, les projets sur lesquels on travaille, les personnes sont venues de manière volontaire, en tout cas les directions. Après, effectivement, les directions ne sont pas les seules. Hein, et c'est pour ça qu'on travaille sur les méthodes collaboratives. Et on voit aussi à quel point il y a des résistances, bien sûr, dans toutes les organisations. Et c'est là où les méthodes collaboratives sont nécessaires et importantes, parce qu'on arrive toujours à faire basculer même les plus résistants dans ces temps collaboratifs. Justement, quand chacun arrive à relier ces enjeux-là à son propre métier ou à ses pratiques personnelles. Et en fait, il faut du temps pour en arriver là. Ça se fait pas du jour au lendemain et c'est pas juste en alertant en fait sur les dangers que ça marche. En fait, c'est quand on arrive à relier tout ça à sa propre pratique, à son propre métier.
Merci beaucoup. Une autre question ?